personnage qui parcourt l'imaginaire à grandes enjambées depuis des décennies, dites le lapin blanc, le lièvre de Mars ou la reine de cœur, et voici Alice qui se profile dans le miroir, Alice ou Macha, Macha ou Alice au Festival d'Avignon, qui va voir Macha verra Alice. Bienvenue au pays des merveilles avec la chenille, le chat, la libellule et tout le bestiaire fantastique imaginé par Lewis Carroll dans son roman Les aventures d'Alice au pays des merveilles, publié à Londres en 1865. Bonjour Macha Makeyev.
Bonjour.
Avec votre spectacle Lewis versus Alice, vous nous entraînez un peu comme Alice dans un autre monde où le personnage et son créateur font jeu égal.
Oui, c'est-à-dire que versus, c'est du côté d'eux aussi. C'est pas contre, mais c'est en même temps un face à face. Et comme on est chez un mathématicien, parce que Lewis Carroll, qui a écrit Alice au pays des merveilles notamment, et Au travers du miroir, et Sylvie et Bruno, des œuvres de fiction, a écrit aussi beaucoup, beaucoup d'ouvrages très sérieux de mathématiques où il met quand même toujours une once d'humour. Mais c'est un logicien, un mathématicien, un vieux garçon un peu solitaire à Oxford pendant 47 ans. Et donc, il y avait aussi quelque chose d'une démonstration un peu énigmatique, sans oublier le nonsense, entre Lewis, l'auteur, et Alice, la créature.
Et Alice, c'est peut-être le rêve de Lewis.
Oui, c'est plus que ça. Je pense que c'est, pour entrer dans le vif du sujet, je pense que là, pour le coup, c'est un point de vue sur le monde. Il invente une petite fille qui devient, à une époque où c'était pas trop le cas, une véritable héroïne, qui est débarrassé de l'idée de Dieu, alors que lui-même était un personnage extrêmement religieux, enfin dans une éducation très religieuse, même s'il essaie de s'en émanciper. Eh bien, ce personnage-là, c'est un véritable point de vue sur le monde. C'est-à-dire que lui nous dit, essayez d'arrêter le temps un petit peu. L'enfance ne passera pas, de toute façon, elle est là, enchâssée en nous, et vous regarderez le monde désormais comme si vous aviez 7 ans et pas plus. Et ce point de vue-là, qui peut, c'est plus qu'un conte pour les enfants, c'est plus que pour les enfants, c'est en raison de l'enfance. Donc c'est une chose à la fois, évidemment, qui sollicite l'imaginaire, qui est formidable, qui est une fiction, qui nous fait basculer dans le surnaturel, mais en même temps qui dit une profonde inquiétude de l'enfance. Quelque chose d'une traversée initiatique pas si facile.
Alors, on va prendre le temps de raconter votre spectacle, Macha Makeyev, mais il faut peut-être rappeler comment et pour qui Lewis Carroll écrit ce roman. Il est encore très jeune, c'est un jeune homme, ça fait partie de ses premières œuvres. Et Alice est une vraie petite fille.
Oui, Alice Liddell.
Dont il est presque amoureux.
Oui, il est amoureux d'une petite fille de 4 ans qu'il admire, qu'il photographie avec ses sœurs et d'autres enfants. Et puis, un jour, elle a 10 ans, et un jour, dans une promenade en barque, il raconte une histoire, parce que c'était très souvent le cas, il inventait des fantasmagories pour les enfants. Mais là, cette petite fille lui dit, maintenant, il faut l'écrire, parce que je l'aime trop, cette histoire. Et donc, il se met au travail, mais plusieurs années, d'ailleurs, parce qu'il a d'autres préoccupations, il enseigne, il est préoccupé par plein d'autres choses. Il adore le théâtre. Et il écrit Les aventures d'Alice. Il en donne le facsimilé aux parents, le doyen et sa femme, les Liddell. Et puis après, on lui suggère de le publier. Donc il va le publier. Il devient Lewis Carroll, donc alors qu'il s'appelle Charles Ludwig Dachsen, qu'il est un garçon quand même très spécial. Il est bègue, il est demi-sourd, il est asexuel, il est très excentrique, très bizarre. Il est d'une grande fratrie de 11 enfants. Il est le troisième, le premier fils. Donc il devrait prendre normalement la carrière ecclésiastique de son père. Alors il est brillant, donc il y va un peu. Mais après il recule, il ne sera que diacre. Parce qu'il aime trop le théâtre notamment. Il est artiste, il est souvent dans les ateliers des peintres. Et il est de ce côté-là. Il défend des thèmes étonnants, comme il est contre la vivisection, il est pour que les acteurs enfants existent, surtout dans les familles pauvres, il pense que c'est un épanouissement pour eux. Voilà, il est décalé, excentrique.
très énigmatique aussi.
Oui, complètement. D'autant
vous racontez
plus...
sa chambre, et notamment une fois qu'il meurt, on va découvrir dans sa chambre qui est une sorte d'atelier de bricoleur, de cabinet de curiosité infernale, quelques 20 000 lettres, c'est ça, envoyées.
Oui, énormément. Et encore, on n'a pas tout. Notamment les lettres à Alice qu'il écrit. Il en a écrit des centaines et des centaines. La mère d'Alice va les brûler. Donc c'est parce que Charles voit de son vivant le mythe Lewis Carroll. Il a pris ce nom-là, et puis le succès d'Alice est tel que devant lui se dresse la statue, cette statue du mythe. Donc il, jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, il rejettera. Il veut même plus entendre parler de Lewis Carroll. Mais il est un peu assommé par ça, et c'est la lutte aussi dans le spectacle entre, enfin c'est le face à face, le jeu de miroir entre Charles et Lewis. Et qui est Lewis ? Alors Lewis, en fait, parce qu'on est dans une société victorienne, il faut qu'il soit conforme. Donc vous pensez bien que quand, une fois qu'il disparaît, que ce monsieur de 66 ans disparaît, eh bien la famille le rend plus conforme que la conformité. Donc légère censure, on vide sa chambre. Moi, ça m'a toujours bouleversé l'idée qu'on entre dans les ateliers des artistes, dans leur chambre, et on détruit ce qui est aussi un discours. Le paysage qu'ils ont organisé autour d'eux est un discours quelquefois plus éloquent que les traces écrites qu'ils ont laissées.
Et il était tellement excentrique qu'il n'aimait pas le thé, ce qui est quand même le comble pour un Britannique.
Oui, ni les fleurs coupées, ni la couleur rouge. Enfin, il avait. Et puis alors, quand il préparait le thé pour les autres, il secouait la théière pendant 10 minutes.
Vous avez lu Alice, enfant ? Quand avez-vous rencontré ce roman ?
Il était dans la bibliothèque, effectivement, et je n'avais pas un rapport très simple avec ce livre. Je n'aimais pas beaucoup cette petite fille que je trouvais... Voilà, moi j'ai eu une éducation un peu à la Lewis Carroll, c'est-à-dire à la Duxon, c'est-à-dire très religieuse, un peu stricte comme ça, avec aussi une excentricité qui venait du côté russe, mais je la trouvais bien sage, presque antipathique, et puis je n'aimais pas trop les illustrations qui à la fois me terrifiaient et me convenaient pas. Et donc c'est à force de travail aussi, et précisément parce que c'était pour moi énigmatique, que j'ai appris à connaître Lewis au travers d'Alice.
Alice, vous l'avez dit, Masha Makeyev, c'est le temps de l'enfance et des comptines, et elle ne manque pas dans votre spectacle.
Animal crackers in my soup, monkeys and rabbits loop the loop. Gosh, oh gee, but I have fun swallowing animals one by one. In every bowl of soup I see lions and tigers watching me. I make him jump right through a hoop, those animal crackers in my soup. When I get hold of the big bad wolf, I just push him under to drown. Then I bite him in a million bits and I go pull him right down. When they're inside me, where it's dark, I go around like Noah's Ark. I stuff my tummy like a goo with animal crackers in my soup. Watching me, I'm making jump right through the hole. Those animal crackers in my soup.
Extrait de Lewis versus Alice, votre spectacle Masha Makeyev, que l'on peut voir actuellement au Festival d'Avignon, où nous vous donnons rendez-vous pendant encore toute la semaine. La musique participe à l'enchantement du spectacle.
Oui, pour moi c'est incontournable. C'est la part plastique du théâtre parce qu'elle parle à tout le monde. Et que il faut surtout pas effrayer par la chose culturelle. En plus, Lewis Carroll lui-même dit « écoutez d'abord la langue avant de la comprendre ». Il parle tout le temps du son des mots avant le sens. Et il retourne le sens très souvent, il invente des mots. Donc la jouissance de la langue est pour lui une chose importante. Donc là, on fait entendre l'anglais, comme on l'a entendu là. Et même aussi, de temps en temps, dans les dialogues, on entend l'anglais. Et là, Animal Crackers, c'est vraiment...
C'est pour le son, c'est pas juste pour spatialiser Lewis Carroll.
Absolument,
sur,
mais en même temps, évidemment...
la Grande-Bretagne.
Oui, mais les mots, j'ai choisi... des textes qui ont absolument à voir avec le miroir, avec les animaux. Là, c'est la mare des larmes. Vous savez, c'est le moment où Alice pleure tant que, et comme elle est toute petite, elle se noie, elle a rétréci, elle risque de se noyer dans les larmes. Et tous les petits animaux avec elle. Donc, il y a une espèce de sauvetage. Donc, Animal Crackers, ils sont tremblotants quand ils chantent ça. Et en même temps, c'est pour aborder une œuvre comme celle de Lewis Carroll, il faut aussi des accroches personnelles. Donc dans le spectacle, évidemment qu'il y a le fil rouge, sa personnalité, et comment sa propre enfance à lui a généré ces personnages-là. Mais forcément, il y a aussi des fantaisies. Animal Cracker, c'est mon enfance à moi. C'est vraiment Shirley Temple. Quand j'étais enfant, je regardais beaucoup ces films en noir et blanc et je dansais tout le temps avec Shirley Temple. Donc,
cette star hollywoodienne.
Oui, cette petite fille.
Toute blonde qui avait 6-7 ans.
Oui, elle a commencé, je crois, encore plus jeune. Et il y avait une joie à l'américaine que j'aimais beaucoup. Et en même temps, c'était comme une comptine anglaise. C'est-à-dire qu'il y avait une rythmique de comptine. Donc, voilà. Alors, il y a Camilla Barnes qui a suivi la langue anglaise, qui était d'une façon très stricte. Donc, ils chantent ça, Rosemary Stanley, mais aussi tous nos acteurs, tout le monde, c'est un tutti. On le chante avec l'accent d'Oxford.
Alors, vous dites théâtre musical, c'est ce qui est écrit dans le programme,
oui. Ou
comédie musicale. Ça pourrait.
Moi, j'aime bien théâtre, forcément. C'est toute ma vie, donc... Mais ça m'amuse de dire théâtre musical parce que j'ai jamais fait du théâtre sans musique. Parce que je vous dis, la part plastique, la jouissance de la rétine, mais aussi l'oreille. Et puis, j'aime que les acteurs chantent. Et là, il y a Clément Griffo au piano. Mais que ce soit Vanessa, que ce soit Caroline, que ce soit Geoffroy, Jeffrey, Yann. Ils chantent tous. Ils produisent de la musique. Je pense que là, vraiment, Lewis Carroll, plus que jamais, nous autorise à répondre à l'inquiétude de l'enfance, à l'incertitude du monde par la fantaisie. Donc ça en passe par là et il y a une sensualité dans tout ça.
La fantaisie qui n'est pas le fantastique, hein. On est dans le domaine du rêve, il n'y a pas de super-héros avec des pouvoirs surnaturels, on est dans le glissement de la réalité vers le rêve.
Oui, ce que Lewis Carroll lui-même appelle le féeristique. C'est-à-dire que ce garçon victorien, qui aurait dû être vraiment modelé par une société corsetée, il a un surnaturel immense. Alors évidemment, c'est un chrétien, donc il y a toutes les fantasmagories bibliques, mais enfin là, hop, il les fait s'évanouir au profit des elfes, des fées, des ectoplasmes, enfin, de plein de personnages que nous, on a un peu oubliés, mais que lui voit vraiment, parce qu'il est spirit aussi. Enfin, c'est une époque où vraiment, on cherche à attraper les âmes dans les airs. Et s'il fait de la photographie, c'est un immense photographe comme Cameron, eh bien, lui, il essaie de laisser sur la plaque de verre la trace de l'âme.
Alors, on le disait, Macha Makeyev, votre spectacle Lewis versus Alice n'est pas une adaptation du roman Alice au pays des merveilles. Même si l'essentiel des textes sont des textes de Carroll, il n'est pas le seul auteur. Vous avez fait aussi un montage entre le roman, des lettres et des textes d'autres auteurs.
Oui, c'est bien le moi. C'est-à-dire que je lui ai donné la parole, il y a des guillemets partout. Je me suis tellement imprégnée de lui pendant plus d'un an qu'après, quand il y a des dialogues pour les acteurs, il est très là, en fait. Mais c'est le spectacle, je l'ai voulu comme un objet carolien. C'est-à-dire que c'est par la forme qui vrille, l'espèce de sens nonsense à la fin, avec la chasse au snark, qu'on nous dit mais tout ça, est-ce que ça a vraiment existé? Où est-ce que vous en êtes de votre rêve? Est-ce que vous êtes dans le rêve de quelqu'un ou est-ce que vous êtes dans votre propre rêve? Nous, au théâtre, qu'est-ce qu'on fait d'autre que de créer les conditions du rêve?
Combat entre Carroll et Alice, qui est qui? C'est Geoffroy Carré qui joue Lewis Carroll.
Oh! Surgis donc du passé obscur, Alice, enfant de mes rêves, dans une tentative désespérée d'inventer une nouvelle démonologie, moi, Charles Ludwig Dodson, j'ai envoyé mon héroïne, la tête la première, au fond d'un terrier de lapins, sans avoir la moindre idée de ce qui allait advenir ensuite.
Vous êtes qui, vous? Who are you?
Je sais pas trop, dit Alice.
Je sais pas trop, dit Alice.
Je sais pas trop.
Depuis ce matin, je me suis transformée.
C'est troublant.
Plusieurs fois.
Ça me fait bizarre.
C'est troublant.
Who are you? Qui êtes-vous? Mm-hmm. Plus que jamais, ce spectacle, j'ai envie de dire, Masha Makeyev, ce rêve éveillé, joue sur cette interrogation, mm-hmm. qui suis-je? Est-ce que ce vertige de l'identité, qui est très très présent dans votre proposition, Alice, par exemple, est double, vous disiez, il y a Lewis et Carole, mais il y a deux Alice sur scène, est-ce que ce vertige-là était aussi un point de départ pour votre spectacle et pour
tout
ce désir de
oui,
spectacle?
Oui, tout à fait, parce que c'est la question que pose Lewis Carroll sans arrêt sur sa propre identité, parce qu'il a perçu la peur de la métamorphose que l'on a quand on est enfant et de l'incertitude du monde. En fait, on est tout le temps en train de changer. Alice n'arrête pas. Il y a quelque chose d'initiatique chez elle. Donc, on l'a entendu, là, avec la chenille, par exemple. Conseil pour une chenille. Donc, moi, j'ai rendu la chose très psychédélique. C'est-à-dire, comme elle mange du champignon, vous imaginez ce que ça peut produire dans le côté hallucinogène. Et elle perd pied. C'est ça qui est beau. Et après tout, c'est aussi une demande poétique de la part de Lewis Carroll, et on a essayé dans le spectacle de répondre à ça. Le son de Sébastien Trouvé, les lumières de Jean Bellorini, les masques de Cécile Kretschmar participent de ça. On a beaucoup parlé de ça. Comment on perd pied? Quelle est la question de on est qui là et tout à l'heure on sera qui et on en est où? Et je voulais que le spectateur surtout ne regarde pas le spectacle à distance, mais tombe, glisse aussi dans le terrier avec nous et bascule dans son propre imaginaire et se demande « Mais j'en suis où ?»
Le monde se met à l'envers quand je m'endors, dit Lewis Carroll.
Oui.
Donc c'est ce monde inversé en fait que vous proposez sur scène.
Oui, sans arrêt. Évidemment, il y a déjà deux miroirs, ça a été les premiers éléments posés sur scène. Et sans arrêt, ces jeux de réalité. C'est-à-dire que le narcissisme de l'enfance, après tout, c'est un questionnement fondamental. C'est pas simplement la sottise d'un enfant qui touche et qui dit « Ah bah tiens, j'ai une image, et puis l'orange qui est dans ma main droite, elle est dans ma main gauche en face. » Non, non, c'est vraiment un questionnement fondamental. D'ailleurs, les surréalistes ne s'y sont pas trompés, qui ont attrapé les Wiscaro et l'ont mis parmi eux, élu comme un des leurs. Et puis les Artaud, les Duras, jusqu'à Lacan aussi, qui s'interroge beaucoup et qui sourit beaucoup. Et qui, voilà, donc c'est vraiment aussi pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, quelqu'un qui nous force au regard poétique d'une façon très, très audacieuse.
Alors, deux miroirs, deux Alice, mm-hmm. sur scène, deux langues, le français, oui. et l'anglais, on en a parlé, c'est important. Deux scènes superposées, parce que absolument. Il y a la scène, et puis il y a une maison, un décor de maison, donc ça permet de jouer aussi à l'étage.
Oui, il fallait vraiment que les points cardinaux soient affolés. C'est pour ça que la boîte à jeu que l'on conçoit est essentielle, parce que c'est la géographie, la topographie de l'histoire. Et les acteurs, tout de suite, sont chez eux, et ils savent que si c'est traversé de vent, que si c'est plein de fenêtres sans porte, comme ça, quelque chose se dit de ils sont désorientés. Ces personnages, et Alice bien sûr, mais les autres aussi et tout. Et Lewis lui-même, Lewis Carroll, qui est Charles, en fait Charles vient de mourir quand on entre dans l'histoire, et sa propre mémoire est comme un rêve. Il n'est pas sûr d'avoir vécu tout ça, peut-être qu'il l'a rêvé, donc le rêve est absolument partout.
Il y a donc le réel et le rêve, mm-hmm. et puis il y a la vie et la mort.
Oui, bien sûr, toujours.
Toujours. Avec cette, alors, je l'ai noté comme ça très très rapidement, donc je la cite de mémoire, vous allez peut-être me corriger. Être mort, c'est être flou. Ce qui reste, c'est le désir de lancer des mots.
Oui.
Hein, c'est
parce qu'il fallait, au travers de ce premier dialogue que j'ai écrit, vraiment en m'imprégnant de ce qui est au plus près de Lewis Carroll, après tout, il y a un manifeste aussi. Chez Lewis Carroll, il y a un manifeste de la langue, de l'invention de la langue, de cette langue qui vous appartient et vous échappe à la fois. Le sens, il y a autant... Il faut savoir qui est le maître. Bon, ben, moi, si j'estime que tel mot veut dire telle chose, vous n'avez pas à le contester. Et lui-même le dit très bien, Sylvie Bruneau, il dit non, 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 il est absolument incontestable. Si noir veut dire blanc et blanc devient noir, l'auteur...
C'est un peu fou en même temps.
Mais bien sûr. Mais cette folie s'est revendiquée comme une absolue liberté... Et en même temps, elle est très codifiée, parce que lui, c'est un logicien. Donc, il vous fait croire qu'il y a une logique, et au dernier moment, il l'inverse. C'est toute la, par exemple, l'utopie de la chasse au snark, qui est à la fin, qui vient ponctuer le spectacle, et qui est à la fin. Et après tout, c'est pas si grave. Parce que, évidemment, qu'il y a une utopie, il faut embarquer, il faut partir, il faut aller chasser un snark, parce que c'est très important d'avoir le snark. Et puis, le snark est un beau jum, c'est-à-dire, on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une utopie? Qu'est-ce que c'est que notre rêverie? On va vers quoi? On cherche quoi? Le tout, c'est de chercher, c'est de partir à la chasse de quelque chose. Mais tout échappe sans arrêt.
Qu'est-ce que le théâtre Le théâtre et son double. J'ai pensé à ça, vous citez Artaud, et bien tout d'un sûr. Coup, je pense à ce livre essentiel d'Antonin Artaud, Le théâtre et son double, où il dit que finalement, le théâtre n'est qu'une réalité virtuelle.
Tout à fait.
Et quand on pense à cela après avoir vu votre spectacle, on se dit, bah voilà, c'est ça le théâtre.
Mais oui, ça me touche beaucoup ce que vous dites, parce que c'est exactement là où j'en suis quand je fais ce spectacle. C'est-à-dire que le théâtre est toujours une interrogation sur le théâtre, même si on ne veut pas du tout faire la leçon et si c'est implicite. Mais bien sûr, toutes ces rêveries que l'on a inventées depuis tant d'années, ça va où ? Qu'est-ce qu'emporte le public quand il quitte la salle ? Qu'est-ce qu'il emporte, bien sûr, de Lewis Carroll, c'est essentiel, mais qu'est-ce qu'il emporte de son état de rêverie ? Et moi, c'est cet imaginaire qui se met à exister, cette chose absolument intangible que le théâtre fait transporter aux autres, qui me plaît et que je trouve rend la vie plus vivable et qui est, au fond, ma vie, en fait.
D'où l'importance des images.
Oui, essentiel, parce que moi, ce qui m'importe aussi, c'est que si déboule dans la salle petit bonhomme, petite bonne femme de 10-11 ans qui parlerait pas notre langue, par exemple, ou qui n'entendrait pas, il est ou elle reçoive le théâtre aussi d'une façon sensuelle, plastique, émotionnelle. Voilà. Après, là, bien sûr, il y a aussi la sensualité de la langue et des deux langues.
Mais non, ce n'est que le roi rouge et ronfle, voilà tout. Là, en ce moment précis, il est en train de rêver. De qui croyez-vous qu'il rêve ?
Mais ça, personne peut le savoir.
Why? About you? Allons donc, il rêve de vous. Et s'il cessait de rêver de vous, où croyez-vous donc que vous seriez alors ?
Là où je me trouve, bien sûr.
Jamais de la vie ! Vous ne seriez nulle part. Nowhere. You'd be no one. Vous n'êtes qu'une espèce de chose épouvantable. Dans son rêve.
You're only a sort of thing in his dreams. Vous savez très bien que vous n'êtes pas réel.
Bien sûr que si, que je suis réel. Je suis réel. Dis Alice. Je suis réel. Je suis réel.
Macha Bakayev, comment composer des images sur scène avec Lewis Carroll, sachant que les aventures d'Alice sont illustrées dès l'origine ? Est-ce que ça fige l'imagination ? Est-ce qu'il y a un devoir de fidélité ? Parce qu'on en parlait juste avant cet extrait de spectacle. C'est vrai qu'on plonge dans un univers où, si on ne parlait pas la langue, on peut quand même recevoir votre proposition.
Oui, alors là, vraiment, pour le coup, ces illustrations de Téniel, notamment, existent et elles sont à la portée de tout le monde. Mais moi, je me suis vraiment... Et j'ai demandé aux acteurs, et ça n'a pas été facile, de les oublier vraiment, au profit de quelque chose d'autre et... qui est propre au théâtre et qui est propre aussi, vous avez vu les inflexions des voix, les corps des acteurs, que ce soit Geoffroy Rondeau, Vanessa Fonte, Caroline Espargilière, Yann Peters, et puis Rosemary Stanley, les inflexions de la voix de Rosemary, mais leur corps aussi, Clément Griffaut, Jeffrey Carré qu'on a entendu, ça c'est avec aussi ces corps-là, ces voix-là, ces inflexions, cette façon de dire la langue que le théâtre a lieu. Et puis, un autre imaginaire, bien sûr, au plus près de ce qui moi m'entoure. Je suis entourée d'objets, d'animaux, de choses. Voilà, donc je voulais les mettre au service de Lewis Carroll. Et dessiner un décor, c'est essentiel. Voilà, donc on
Mais
a essayé d'oublier tout ça.
Il n'y a pas que le décor, il y a l'apparition aussi des personnages,
oui.
Avec ces masques d'animaux
oui,
qui sont à la fois très
oui.
légers et
Exactement.
Très dessinés.
Exactement, Cécile Kretschmar a inventé quelque chose de magnifique, parce que je lui ai dit, moi je voudrais vraiment des animaux en volume, tu sais, moi je veux pas du symbolique, je veux vraiment des volumes. Et elle a inventé quelque chose d'absolument scintillant, à la fois transparent, les acteurs ils sont totalement à l'aise, et en même temps, les formes sont là. Alors, avec la lumière de Jean Bellorini, ça donne des choses absolument étonnantes.
Vous savez, le théâtre, en fait. Vous voyez, on dit, oh, la libellule, tu as.
Ben oui, voilà. Absolument.
C'est comme presque un feu d'artifice.
Oui, c'est exactement ça, des apparitions. Et c'est quelque chose comme dans un rêve. En même temps, dans un rêve, on est prisonnier, hein. Et Alice, elle veut être la reine, et elle dit, je veux être la prisonnière de personne, mais elle est prisonnière de ses rêves. Alors, heureusement, les rêves basculent dans un autre rêve. Et puis, il y a ce mouvement perpétuel de l'onirique. Mais quand même, dans un rêve, le scénario s'écrit. Alors, je sais bien qu'on est un peu l'auteur quand on rêve, les Lacaniens seront bien d'accord, du scénario que l'on est en train d'écrire, mais quelque chose aussi nous est imposé dans un rêve. On ne peut pas en sortir comme ça, il a une certaine durée. Donc, c'est très important que c'était très important aussi que ça vienne avec les corps des acteurs, avec les, et puis avec avec mes armes qui sont tous ces objets aussi.
Alors en parallèle de ce spectacle, vous avez conçu une exposition à la Maison Jean Villard, exposition baptisée Troubles Fêtes et sous-titrée Collection curieuse et choses inquiètes. Est-ce que cela veut dire que votre atelier, votre univers est proche de celui de Lewis Carroll et qu'il y a du Carroll en vous forcément, sachant que les objets, on va pas retracer toute votre vie de metteur en scène, mais les objets ont été essentiels. Vous avez commencé le théâtre par la scénographie. Et oui. Vous avez fait pendant de très très longues années avec Jérôme Deschamps des spectacles presque sans mots, oui. Mais où les objets prenaient toute leur valeur.
Oui, les traces en fait. Oui, à la Maison Jean Villard, où Nathalie Cabrera m'a accueilli en me disant « Mais allez-y, vous pouvez tout bouleverser. » Et j'ai aimé parce que c'était une maison. Et dans une maison, effectivement, on avait vidé la chambre de Lewis Carroll dans le spectacle et j'avais envie de remplir cette maison. Mais c'est des choses qui viennent de très loin. Il est aussi une question d'une traversée de l'enfance. Donc avec la curiosité et aussi l'inquiétude. L'inquiétude qui ne nous lâche jamais, enfin, en ce qui me concerne, et aussi au travers de deux autres personnages. Bien sûr, Lewis Carroll est invité parmi d'autres fantômes. Mais aussi mon frère Georges, qui était mon compagnon de jeu quand j'étais dans ma toute petite enfance et qui lui s'est enfermé dans un silence. Parce que justement, le choc du réel, quand vous êtes dans un lieu fermé, un lieu clos, un bocal familial, un peu de grande fratrie comme pour Lewis Carroll, il n'y a pas d'autre possibilité. Soit vous enfermez, soit vous basculez dans la fiction et vous allez vers les autres par la fiction. Donc là, c'est une traversée aussi d'objets inquiet, évidemment, j'espère, avec une certaine fantaisie aussi, mais qui raconte, voilà, une traversée qui ne passe pas, l'enfance ne passe jamais.
Mais qui vous raconte, cette fois-ci, plus que
oui,
Carole.
Bien sûr, oui, mais enfin, moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas rendre compte d'un auteur s'il n'y a pas une accroche personnelle et si ça ne va pas toucher une certaine sincérité et quelque chose qui m'a bouleversée aussi, bien sûr, chez l'auteur, mais aussi, on est d'accord sur deux, trois choses.
Vous préférez les mots ou les objets, Masha Makeyev ?
J'allais vous dire pareil. Longtemps, on a fait effectivement des spectacles. J'ai fait des spectacles sans mots ou avec très peu de mots. Ou plutôt, les textes étaient là, mais c'était un matériau plastique comme un autre, pas plus privilégié que les sons, les bruits, la musique, les corps. Voilà. Mais c'est probablement aussi parce que je me suis méfiée des mots. Il y a des promesses non tenues. Il y a dans l'enfance beaucoup d'impostures aussi qui vous sont faites à cause des mots.
Et s'il n'y avait qu'un mot ?
S'il n'y avait qu'un mot ailleurs.
Merci Masha Makeyev. Lewis versus Alice est à voir au Festival d'Avignon, puis en tournée en France avec une escale fin novembre dans votre lieu à Marseille, le Théâtre de la Criée. L'exposition Troubles Fêtes est à voir à Avignon, Maison Jean Villard, et ça c'est jusqu'au 14 décembre, donc on a le temps. Et l'on peut aussi vous lire dans Zone Céleste, un livre publié chez Actes Sud. Et on va se quitter, puisque c'est une proposition musicale que votre spectacle, on va se quitter. On va chanter, vous chantez ?
Le matin comme ça peut-être pas, je préfère écouter les acteurs, et en plus comme on a des voix magnifiques comme celle de Yann et puis celle de Rosemary Stanley surtout, qui est absolument, mais elle a une force, une vibration qui est de l'ordre du surnaturel parfois, donc il vaut mieux qu'on l'écoute elle.
I'm so happy, happy-go-lucky me, I just go my way, living every day,
I don't worry. Things that bother you never bother me. Things that bother you never bother me. I feel happy and fine. Living in a sunlight, loving in a moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot. Coffee's only a dime. Living in a sunlight, loving in a moonlight, having a wonderful time.
Just take it from me, I'm just as free as any daughter. I know what I like, just what I like, and I love.
One, two, three, four.
I'm right here to say when I'm old and gray, I'll be right in my prime.
So happy de vous avoir rencontré, Masha Makeyev.
Merci, c'est Tiny Tim. Vous savez, c'est un excentrique anglais magnifique que mon fils Arthur m'a fait découvrir.
De vive voix avec Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation, toujours en direct du Festival d'Avignon et de l'Hôtel d'Europe. On se retrouve demain.